C'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Evelyne Fontane, à chaque dimanche, midi, 13h, sur RCFM.
Bienvenue à Midi Sciences. Chaque dimanche, RCFM vous propose un moment de connaissance et de partage avec des invités prestigieux, le tout dans la bonne humeur. Et le sujet d'aujourd'hui passionnera les petits comme les grands. Nous allons partir en effet sur les traces des Indiens d'Amérique et laisser derrière nous les clichés véhiculés dans les films de western et les mythes du Far West. Et pour nous plonger dans l'histoire et la culture des Peaux-Rouges, j'accueille Grand Bison qui se roule dans les cactus du Parc Galais à Au Soleil Couchant, le grand chef Fabrice Fenouillère. Bonjour Hugues.
Hugues, vous allez voir qu'on est ridicule en disant Hugues, mais Hugues.
C'est pas Hugues?
Je crois pas.
Eh bien, on va l'apprendre justement. Et c'est d'ailleurs au parc que vous avez accueilli notre expert dimanche dernier, Fabrice Delsaüt.
Oui, on est vraiment ravis d'avoir aujourd'hui par téléphone, vous l'avez dit, l'ethno-historien Fabrice Delsaüt. Alors, il est maître de conférences habilité à diriger des recherches, enseignant à l'école supérieure du professorat d'éducation de Paris-Sorbonne. Il est l'un des rares spécialistes en France des civilisations amérindiennes du Nord, auprès duquel d'ailleurs il a passé plusieurs mois en immersion. En complément de ses recherches, ça lui a permis en l'occurrence d'être l'auteur de nombreux articles et d'ouvrages faisant référence. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse vraiment dans cette émission, Fabrice Delsaüt est un passeur généreux et passionné qui sait déterrer la hache de la connaissance pour nous amener à nous intéresser à ce peuple fabuleux des Amérindiens ou des Indiens d'Amérique du Nord. Donc on sait déjà que dans notre petite tribu radiophonique, on va se régaler, chère, chouette, rieuse et chevelue. Ça c'est vous, hein. Chère, chouette, rieuse. Alors vous, c'est votre surnom. Hein. Chouette, rieuse et chevelue, hulant aux oreilles des auditeurs. Oui, chouette, rieuse et chevelue, un peu chiante, chouette, rieuse, ululant aux oreilles des auditeurs. C'est votre surnom en iroquois.
J'adore. Allez, avant d'accueillir sous notre tipi Fabrice Delsaüt, enfonçons-nous dans les sous-bois et revenons sur la dernière énigme. Il nous fallait trouver un champignon, un fung ou bel ou gof.
Oui, c'est le cas de le dire. C'est la traduction, vous auriez eu le nom, consacré aux microbes, hein, l'émission de la semaine dernière, et donc les champignons en faisaient partie. L'énigme qu'on avait proposée à nos auditeurs était en deux syllabes, et c'est tout. Je suis à la fois séduisant et pas du tout, et vous l'avez compris, il s'agissait du bolet. Le bolet, c'est Philippe de Cervioni qui, de justesse, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes réponses cette semaine, était le plus rapide et remporte donc le livre des plantes et des hommes publié dernièrement aux éditions Galéa.
La prochaine énigme à la fin de cette émission. En 1492, l'homme blanc et les Indiens se rencontrent, une histoire ponctuée de tensions, de confrontations et de massacres, mais aussi de métissages qui ont conduit à l'Amérique d'aujourd'hui. Suivons ensemble les traces des civilisations Peaux-Rouges en compagnie de Fabrice Delsaüt.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonjour Fabrice.
Bonjour Chatrieuse.
Bonjour.
Et bonjour Grand Bison.
Et ben justement, avant de remonter aux origines de ce peuple qui vous passionne tant, Fabrice, une première question. Vous avez été indien dans une autre vie, vous qui venez de Dordogne et qui n'avez jamais joué aux cow-boys et aux indiens enfants?
Je ne sais pas, peut-être, oui, d'après les indiens, je serais une vieille âme indienne, donc je ne sais pas. En tout cas, on trouve des traces peut-être d'indiens en Dordogne, donc on va en parler.
Oui, vous auriez été naturellement plus destiné à parler préhistoire dans cette oui. région si riche en l'occurrence. Alors, une première question peut-être un peu générale, Fabrice l'Indien, hein, parce qu'il y a Fabrice, le gringo c'est moi, Fabrice l'Indien c'est vous. Quand on parle d'Indien justement, parce que c'est une entité complexe, on parle de qui exactement?
Les Indiens, alors d'abord, nous on parle des Nord-Amérindiens, des Indiens qui peuplent le continent nord-américain. Et ça correspond à peu près à 500 nations, donc à une multitude de tribus, voilà, réparties sur tout le continent.
Avec la même langue ou des langues différentes?
Non, on pense qu'il y avait autour de 300 langues, vous voyez, donc avec des difficultés de compréhension entre les tribus, hein, parce que les Sioux nommaient les Cheyennes, les Chayekas, c'est-à-dire le peuple qui parle une langue étrangère. Donc vous voyez, c'était pas si simple.
Et ce qui est intéressant, rien qu'avec cette petite définition, hein, c'est qu'on pourrait imaginer que les Indiens sont aussi différents entre eux, y compris en termes de faciès, hein, de physionomie, qu'un Corse pourrait l'être d'un Suédois, par exemple.
Oui, je pense que le plus simple pour expliquer, c'est l'Amérique, ce serait l'Europe. Donc, vous avez les tribus, c'est autant de composantes européennes chez nous. Donc, un Navarro et un Sioux est aussi différent qu'un Italien et un Norvégien, par exemple.
Alors, une question aussi qui va vraiment nous intéresser pour bien poser le sujet. Ces Indiens, sur ce continent nord-américain, ils sont arrivés quand et d'où?
Alors, il y a quatre modèles qui pourraient expliquer, hein, parce que c'est le dernier continent à être peuplé, mais finalement, on a un petit peu du mal à comprendre comment ça a fonctionné. Le modèle le plus classique serait celui de la colonisation par le détroit de Bering, qui se ferait autour de 11 000 à 13 000 ans. Donc, les Indiens seraient venus par l'Asie, sont des tribus asiatiques et qui auraient colonisé toute l'Amérique, hein, tout le continent américain. On a un modèle plus ancien qui serait vers 30 000 ans, où là, on aurait plutôt une colonisation côtière. Et puis après, vous avez deux modèles sur lesquels on tergiverse un peu, c'est-à-dire un modèle depuis l'Europe, où là, finalement, tout le nord de l'Europe serait gelé, les Indiens seraient passés par là, ou alors, enfin, les Indiens en devenir, ou alors depuis l'Australie, par la voie des mers, en suivant les côtes.
Donc,
mais on va retenir plutôt les deux premiers modèles, puisqu'on a des squelettes autour de 10 000, 11 000, 13 000 ans, et puis on a des foyers où on a trouvé des pièces de plus de 30 000 ans.
Mais justement, Fabrice Delsaü, quand est-ce que l'histoire s'est intéressée aux Indiens?
Dès l'arrivée des colons, si vous voulez, puisqu'on a eu des missionnaires qui ont commencé à essayer de comprendre d'où venaient ces gens, en essayant de récupérer des pièces, en récoltant les mythes aussi et les légendes.
Alors, si on vous suit bien, hein, pendant plusieurs milliers d'années, même si on n'est pas effectivement très juste, historiquement encore, on ne sait pas vraiment hein, l'arrivée précise de ces populations sur ce continent. Pendant des milliers d'années, ils vont vivre de manière isolée, autonome en tout cas, dans plusieurs tribus déjà. Ça se répartit sur tout le continent américain ou c'est d'abord tout l'Est, tout l'Ouest et puis après arrive l'homme blanc
les premières vagues d'après... Qu'on voit notamment à travers les foyers, les pièces, on aurait plutôt une colonisation qui serait côtière, donc côte ouest. Quand on voit par exemple la répartition des langues, on voit qu'elles sont complètement imbriquées de façon un petit peu anarchique. Donc il n'y a pas eu une colonisation par strate, si vous voulez, où ils seraient descendus jusqu'en Amérique du Sud. Et puis, donc en fait, non, ce sont plutôt des voies côtières qui après ont pénétré dans le continent et puis qui se sont mêlées entre elles.
D'accord. Et alors, il y a bien une date, peut-être, ou une période clé où ces populations indigènes vont avoir une rencontre avec celui qu'on appelle l'homme blanc. Hein. C'est déjà presque, on va pas dire raciste, hein, mais on a déjà une vraie différenciation dans cette rencontre. Ça se passe à quel moment?
Alors, la plus vieille trace, c'est l'an 1000, hein, c'est Éric le Rouge, c'est un Norvégien qui arrive sur Terre-Neuve. Après, c'est 1492, et puis une des rencontres les plus notables, c'est 1587, où il y a la colonisation de Virginie qui est créée, donc en l'honneur de la reine Élisabeth, qu'on appelait la reine Vierge. Et c'est la première colonie qui est posée là par Walter Raleigh.
Et alors, il y a quelque chose de rigolo, on vous a entendu en parler hein, au Parc Galet, alors ça m'est facile de vous relancer dessus aujourd'hui en radio. Lorsque les hommes, les colons, on va dire, hein, les nouveaux arrivants, vont être mis en confrontation avec ces indigènes indiens, comment va se passer cette rencontre? Est-ce qu'ils vont se regarder de loin? Les Indiens les prennent pratiquement pour des demi-dieux, c'est ça?
Voilà, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre comment ça se faisait que les Blancs étaient accueillis comme ça, sans trop de problèmes en fait. Ça tient surtout à la mythologie des Indiens, où finalement il y a des récits portant sur des hommes qui émergeaient de l'eau, ou des hommes avec très poilus, ou l'homme blanc par exemple chez les Micmacs. Et la première vision, ça a été est-ce que ce sont des dieux ou est-ce que ce sont des hommes? Donc d'abord, ils ont été pris pour des hommes-dieux, si vous voulez, et puis ensuite, ils étaient porteurs de matériaux, donc ils ont été acceptés parce qu'ils amenaient des verroteries, donc ils étaient appelés les gardiens des matières précieuses, c'est-à-dire tout ce que les Indiens n'avaient pas, ben, finalement, les Blancs les apportaient, quoi.
Donc finalement, les premiers contacts, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait peut-être une certaine naïveté aussi chez eux. Et quand est-ce qu'on peut se noter le fait que ça s'est vite dégradé?
Mais l'événement le plus marquant, c'est 1620, c'est New Plymouth, c'est-à-dire quand vous avez les pèlerins du Mayflower qui arrivent. Très rapidement, la population va décimer et le peu qui reste va être sauvé par les Indiens. C'est-à-dire qu'ils vont leur amener à manger, ils vont leur apprendre à cultiver. Et quand vous prenez le Thanksgiving, qui est une des grandes fêtes américaines, en fait, elle est là pour remercier symboliquement les Indiens. Alors maintenant, elle a perdu son sens. C'est plutôt la naissance de l'Amérique, si vous voulez. Mais très rapidement, en fait, en une génération, ça a dégénéré. Et les conflits sont arrivés.
Et donc, alors,
oui, ça s'est fait très vite.
En termes de proportion, on est sur quoi quand on a cette arrivée des colons? Il y a combien d'Indiens sur ce territoire? Ils sont quelques milliers ou on parle en millions?
Alors, on pense que vers 1500, il y avait entre 2 et 7 millions d'habitants chez les Indiens. D'accord? Mais c'est impossible de faire, impossible de savoir exactement la population originelle. C'est pas possible.
D'accord. Et puis d'autant que les traces doivent manquer, parce qu'on est surtout sur des traditions, on va pas dire orales, mais il n'y a pas forcément d'historiens qui ont relevé des choses très tôt dans cette histoire. C'est compliqué, oui, de refaire ces courbes démographiques. Une question maintenant qui va certainement, et puisque dans les autres parties de l'émission, on va être sur leur culture, hein, puis sur l'Indien aujourd'hui, une question qui va certainement surprendre de par votre réponse, parce que moi je la connais, les auditeurs. Quand on parle de conflits, quand on parle d'ethnocide, quand on parle d'Indiens qui se sont retrouvés en territoire comme ça, parqués, en fait, est-ce que les Indiens sont essentiellement morts, hein, pour les guerres ou les conflits qu'il y a eu, de par la carabine du gringo, du blanc, ou est-ce que c'est plutôt les virus qui les ont décimés?
Mais ce sont les virus qui ont tué, vraiment, c'est le choc microbien qui ont décimé les Indiens. On pense que les microbes ont tué 80 à 90% de la population. Donc, pour revenir sur votre question précédente, ben, très rapidement, ces 5 millions d'habitants, ils sont devenus 100 000, 200 000, quoi. Tout ça par ce choc qui a un petit peu justifié la présence aussi des Blancs, puisque la religion les envoyait en disant ça va être une terre vierge. Et en effet, très rapidement, les écrits des premiers explorateurs disent mais il n'y a plus personne, il n'y a que des ossements ou les villages sont vides.
Et au final, les Indiens ont tué plus de Blancs que les Blancs ont tué d'Indiens.
Oui. Le plus grand massacre indien, c'est Wounded Knee, c'est 290 tués, donc des civils et indiens qui ont été tués. Et en fait, ça correspond à peu près à 300 civils blancs qui sont tués annuellement au Kansas par les Indiens. Donc, si vous voulez, en proportion, pour 10 massacres blancs, vous avez une centaine de massacres perpétrés par des Indiens.
C'est pour ça qu'on ne parle pas de génocide pour expliquer la fin des Indiens, en fait, de ce peuplement.
Non, c'est vraiment le choc microbien. Et vous avez un historien qui dit que la terre ressemblait davantage à une veuve qu'à une vierge quand les colons sont arrivés ou très rapidement après.
Mais je crois qu'avec vous, Fabrice Delsayur, on va faire tomber des mythes et des clichés. Et c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie de cette émission. Et on va rester avec eux justement dans une chanson qui vient de chez nous, de Corse, Ameridiano, le ton est donné. Nous allons rester avec elle, les Indiens du Nord. Voici Diana Dillalba.
Montagne luminose, estese pulverose, usole e compagno, avancemu. Soffieremo guerrieri, arditi mio archeri, mancun si sent un lagno, cavalchemu. Il ugor di me è sempre l'uerrano, senza dimore sano, parla curi dei, un spirito maio, mai un mista lontano, e mi parla, piano piano. Se le nubi oggi riposano un tuo spino, diamo una ghisarca e un sorriso. Quando è l'ora infine, sotto i raggi turchini, via luna l'usciuarca in paraíso. I rugordi di me è sempre lontano, senza dimore sano, parlando di te, un spirito maiò, mai un mista lontano, e mi parla, piano piano. Intorno alle fiamme s'adunisce nullano in un canto lento sia in stelle dalle oche sfiatate dai vecchi cascate si sentono leggende ritornelle i rugordi di me e sempre l'erano senza dimore sano parlavi dei un spirito maiò mai un mista lontano
parla piano piano. Quando l'acqua gli è scarsa e chi ha della arsa diventa infeconda, noi vallemo aspettando d'un giorno più bello un ritorno e un cielo iracondo. Noi preghiamo i lugordi di me e sempre lontano, senza dimore sani, parla qui dei un spirito maio, mai un mista lontano e mi parla piano piano. Figli di figli miei, su canto è dedicato a voi sdraigati, affinché di ritei un spirito maio, un mistio lontano, poi indiani, americani, poi indiani, americani, poi indiani.
C'est votre jour de science, Fabrice Fenouillère, Evelyne Fontane, à chaque dimanche, midi, 13h, sur RCFM.
Et si vous prenez l'émission en route, eh bien, c'est votre jour de science a décidé de vous inviter au cœur de la mémoire indienne en compagnie de notre guide, l'ethno-historien Fabrice Delsahu. Et nous allons, grâce à lui, je pense, faire tomber pas mal de mythes et de clichés. Justement, première question que je vais vous poser, Fabrice, est-ce que quand on représente le camp, par exemple, des Indiens en mettant le tipi et le totem juste à côté, on est dans le vrai ?
On a un problème géographique, en fait. Le tipi, c'est plutôt la maison des Indiens des plaines. Les totems, c'est un petit peu la carte d'identité familiale ou tribale que l'on retrouve plutôt sur la côte nord-ouest. Donc, ça va pas ensemble.
C'est comme quand on représente toujours des Indiens à cheval chassant le bison. Bah, tous ne chassaient pas le bison.
Non, en fait, on a à peu près une dizaine d'aires ethnogéographiques qui va des plaines à l'Arctique et à chaque fois correspondent des modes de vie différents. Donc, vous avez des sédentaires, des agriculteurs, donc vous avez des chasseurs-cueilleurs et puis avec une végétation endémique particulière. Donc, ça peut être la civilisation du saumon, par exemple, ou du phoque ou du bison. Mais tous les Indiens ne chassaient pas le bison.
Ben donc, alors, ils étaient pêcheurs, alors, ça veut dire ?
Certains, oui.
Oui, il y avait des pêcheurs, oui.
Et alors, l'Indien qu'on a tous en tête, hein, celui qu'on peut voir à Hollywood, évidemment, dans tous les westerns qui ont bercé la jeunesse et même le côté adulte de chacun, cet Indien-là, il vit où ?
Alors, c'est l'Indien des plaines, donc c'est celui qui est en fait qui suit la migration des bisons, surtout, on est plutôt au centre de l'Amérique.
D'accord. Ça, c'est vraiment le cliché, on va dire le cliché. C'est,
hein, c'est récurrent,
vraiment,
ouais.
C'est vraiment oui. L'image type. Alors que d'autres, bien sûr, ne leur ressemblaient pas, y compris physiquement, hein, et vrai. Y compris dans leur mode de vie. On va peut-être continuer à puiser cela. Et autre chose aussi dans les idées reçues, cher Fabrice, un beau prénom d'ailleurs au passage hein, que vous avez. Un beau nom aussi, hein, parce que Delsahut, c'est près du Sureau, quelque chose comme ça.
Voilà, c'est de l'occitan, ça vient du lot, et ça veut dire celui qui habite près de l'arbre du Sureau.
Oui, c'était déjà un beau nom pour rapprocher cette civilisation amérindienne.
Et je crois que quand il a rencontré les Indiens et qu'il leur a annoncé, on lui a demandé, je crois, Fabrice, que voulait dire votre nom ? Ça a été déjà un élément de contact important.
Oui, c'est amusant, parce que ça faisait plusieurs fois que j'allais au Nouveau-Mexique pour ma thèse, et puis il y avait des Indiens, puis un jour, il y en a un qui est venu me voir, et puis au lieu de me questionner sur ce que je faisais, tout ça, au bout d'un moment, il m'a dit, mais comment tu t'appelles ? Alors je dis, je m'appelle Fabrice Delsahu. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Donc il se trouve que je connaissais l'origine du mot. Et en fait, ça a créé le lien aussitôt. Et puis après, il m'a ouvert toutes les portes pour
donc,
mes recherches.
Ils avaient bien raison, sans doute, que votre vieille âme est du côté des Indiens là-bas. Dans les idées reçues et dans ces clichés, on parle aussi du bandeau à plumes, qui n'a pas vraiment existé.
Oui, alors il y a deux erreurs, si vous voulez, que tous les Indiens ont des plumes, c'est faux en fait, alors, pour des raisons très pratiques aussi, parce que des plumes, si on prend notamment la plume d'aigle, eh bien il faut déjà avoir des aigles et puis il faut les chasser, ce qui n'est pas très simple à l'époque, donc c'est le premier problème, et puis le deuxième, c'est que les plumes en fait, le bandeau a été créé par Hollywood quand les Indiens tombaient, ça faisait tomber les plumes, et donc ils en avaient marre, et puis il y a certainement quelqu'un qui a eu l'idée de mettre un bandeau avec une plume, et depuis c'est passé parmi les stéréotypes.
Donc c'est le cinéma et les acteurs américains qui ont popularisé voilà. Ça.
Tout à l'heure, pour dire bonjour à Fabrice, je lui ai dit « Hugues ». Est-ce que c'est un cliché ça aussi ?
Oui, ça fait partie des clichés amérindiens, comme avec le tomahawk ou la pipe, vous savez, le calumet de paix, tout ça. Donc ça fait partie des, des symboles contre lesquels les Indiens luttent, hein, notamment les mascottes aussi, ils sont...
C'est-à-dire que,
font beaucoup de procès.
Eh oui, les mascottes, notamment au football américain ou au baseball, là, il y a pas mal de mascottes qui reprennent ces petits indiens rouges avec une plume, hein, sous un bandeau, vous l'avez dit. Mais alors, le Hug n'existe pas, c'est même pas un mot indien.
Non, c'est des constructions hollywoodiennes, si vous voulez, pour symboliser l'indien et pour aller à l'essentiel.
Bon, d'accord.
Et le rôle de la femme, de l'indienne, est-ce que c'est une femme soumise, comme on peut le voir dans certains films? Est-ce qu'elle est très présente sur le plan familial? Est-ce que c'est une femme plutôt effacée?
Il n'y a pas de réponse précise parce que, encore une fois, 500 nations, c'est des modes de vie différents, mais vraiment différents. Donc, vous pouvez avoir du matriarcat, du patriarcat. Donc, dans certaines régions, par exemple, sur l'Est, les femmes sont propriétaires des terres. Elles ont le droit de cité, elles participent à la vie locale. Et puis, dans d'autres régions, elles sont complètement soumises. Elles font les travaux des champs. Donc, le statut est différent d'une tribu à l'autre, en fait.
Oui, alors par contre, est-ce que sur ce nombre important de nations que vous nous rappelez, 500 quand même, est-ce qu'on a quand même un modèle de pensée dominant qui se dégage? Peut-être quand même un vrai rapport à la nature?
Oui, vous avez deux traits, enfin, mon point de vue qui sont caractéristiques, c'est l'oralité. C'est-à-dire, on l'a évoqué, on transmet l'histoire de la tribu et du monde, hein, parce qu'il faut expliquer le monde à travers des mythes, des contes, des légendes. Donc ça, c'est universel, si vous voulez, sur tout le continent. Et puis la deuxième chose, c'est la religiosité, c'est-à-dire l'animisme, le fait de vivre en harmonie, la notion d'holisme, c'est-à-dire que tout forme un tout et il faut vivre en harmonie avec ce tout.
Cette société d'oralité, elle est intéressante aussi. Est-ce que vous pensez que justement, c'est aussi ce qui peut expliquer que cette culture s'est petit à petit éteinte, on peut le dire?
Oui, parce que pour deux raisons, c'est-à-dire qu'avec l'oralité, il y a beaucoup de choses qui risquent de se perdre. Et puis les transmissions, donc les Indiens ayant disparu d'un point de vue démographique, c'était compliqué de transmettre ça. Et ceux qui ont rapporté l'oralité, si vous voulez, sont des anthropologues. Et forcément, les discours sont faussés parce qu'ils passent par le filtre de leur propre culture. Donc c'est compliqué d'aller à l'essentiel de la culture à travers les récits qui soient relevés par les religieux ou par les anthropologues.
Et puis, vous nous l'expliquez aussi il y a peu de temps lors de votre présence en Corse. Il y a un petit personnage, alors j'ai pas oublié son nom, mais je vous laisse le prononcer parce qu'il est pas forcément familier de notre vocabulaire. Un petit personnage qui arrive toujours dans les histoires et qui a une sorte de morale à la fin.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le trickster, c'est l'espèce de démiurge, c'est un animal qui triche tout le temps.
On en connaît d'autres, hein.
Oui.
Et qui ne gagnent pas, ou pas toujours à la fin.
Voilà, et en fait, il est là pour. Il met un petit peu en avant les travers des humains, mais à la fin, il ne gagne jamais. Donc, ce sont toujours des contes liés à la moralité à travers ce personnage. Et il est tellement fort que les Indiens l'ont intégré, si vous voulez, au plus profond d'eux-mêmes. Les Indiens sont des êtres rieurs, amusants, et puis qui aiment bien tricher aussi, mais dans le bon sens du terme. On le sait, dans leur culture sportive, et ben ils ont repensé le sport en trichant, mais avec beaucoup d'originalité.
Et comme vous êtes aussi un grand spécialiste du sport, à travers vos recherches, hein, du sport lié à ces populations ou au peuple premier, ils ont inventé la règle du football américain, les Indiens?
Oui, en fait, quand ils ont été acculturés, c'est-à-dire on a pris les enfants, on les a mis dans des écoles indiennes et on les a mis au contact de nouvelles pratiques physiques qui étaient les sports et il y avait le foot américain. Et en fait, ils l'ont complètement repensé parce qu'ils sont pas rentrés dans la logique de gagne-terrain qui est spécifique à la conquête de l'Ouest, si vous voulez, qui incarne le foot américain. Et ils ont créé des passes en avant qui, à l'époque, n'existaient pas, des passes vrillées, des déplacements, et puis tout un tas de combinaisons un petit peu pour tricher, pour mettre à mal. Et ils ont battu toutes les grandes universités et ils ont été champions des États-Unis.
Le sport, c'est finalement pour certains une façon de se mettre en avant. Certains Indiens aujourd'hui qui sont connus dans le sport. En tout cas, Fabrice Del Sayu, vous restez avec nous. On va continuer à évoquer les Indiens d'Amérique dans la société d'aujourd'hui.
Flèche en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un Indien dans mon cœur. Drôle de fleur, un Indien dans mon corps.
L'Indien, c'était Juliette Armanet sur RCFM et vous l'avez compris, les Indiens sont au cœur aujourd'hui de cette émission, les Indiens du Nord. Et vous savez que Geronimo ou encore American Horse, Crazy Horse, ce sont des chefs indiens qui sont entrés dans l'histoire en se sacrifiant pour leur peuple. On va en parler dans quelques instants puisque nous allons retrouver une première question pour notre invité. C'est un enfant qui la pose.
C'est votre jour de science, les petits curieux.
Et le petit Jean-Charles voudrait savoir si Pocahontas a vraiment existé.
Oui, Pocahontas a existé. Alors, elle est pas du tout, elle ne ressemble pas du tout au personnage de Disney. Hein. C'est-à-dire que l'histoire où elle se serait mise pour éviter que le blanc soit tué, son futur mari, donc ça, on n'est pas très sûr, en fait, l'histoire. Elle n'a pas vécu très longtemps, elle est partie en Angleterre et elle est morte, elle avait une vingtaine d'années, elle est morte en Angleterre, justement. Elle a contracté une maladie et elle est morte alors qu'elle allait rentrer chez elle.
Elle s'est restée une icône pour sa communauté ?
Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, je l'avais évoqué sur Galéa, là, en ce moment, vous avez le président de l'Amérique qui s'est moqué d'elle en allant voir des Navarros en leur disant on a une représentante au Sénat, une indienne, on l'appelle Pocahontas, c'est pas une indienne, une blanche, qu'on appelle Pocahontas en se moquant d'elle. Et vous imaginez, auprès des Indiens, c'est pas du tout passé, quoi.
La part de Trump, oui, c'était extrêmement fin.
Voilà.
Justement, puisqu'on est dans cette actualité de l'Amérique, quelle est la position sociale actuelle des Indiens ?
Globalement, elle n'est pas très très bonne, hein, c'est une population jeune, à peu près 33% moins de 18 ans. Mais globalement, vous avez un quart des Indiens qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors qu'aux États-Unis, c'est autour de 10%. Donc, vous voyez, c'est deux fois plus. Et puis, on a un chômage qui est deux fois plus élevé. Et je crois que dans les années 90, sur les 10 comtés les plus pauvres, il y en a 8 qui étaient dans les réserves indiennes. Donc, ça donne une idée du niveau.
On peut les dénombrer ? On sait combien ils sont aux États-Unis aujourd'hui ?
Oui, ils sont autour. Alors, c'est le dernier recensement, c'est 2010, donc on va en avoir un bientôt. C'est 2,9 millions d'habitants. Alors, indiens pure souche, si on peut dire. Donc, ça fait moins de 1% en fait de la population. Et puis, vous avez, avec les nouvelles lois de recensement, où vous pouvez dire j'ai tant de sang indien et tant de sang blanc ou noir. Et si on rajoute ça, ça fait 2,3 millions d'Indiens en plus, ce qui ferait autour de 5 millions. Quoi. Donc ça ferait un 1,5% ou un petit peu plus.
Une minorité donc.
Hein. Oui, voilà. Une minorité en difficulté. Vous l'évoquez un petit peu, taux de suicide important, peut-être aussi obésité.
Oui, des problèmes sanitaires, le suicide des ados est deux fois supérieur. Dans certaines réserves, l'alcoolisme, c'est 80%. Donc les enfants meurent aussi de maladies bénignes ou qui sont traitées sur le continent. Et tout ça parce qu'il n'y a pas de dispensaires médicaux Et puis, surtout, l'état sanitaire général, vous avez des réserves où il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité. Enfin bref, c'est des conditions, c'est le quart monde, quoi.
Ça peut s'expliquer par le fait qu'ils ne sont pas plus dans leur tradition et finalement pas dans la société d'aujourd'hui, entre deux mondes.
Oui, c'est ça, c'est cette espèce d'entre-deux, c'est-à-dire certains Indiens les appellent des rouges, c'est-à-dire quand ils se moquent en deux, c'est rouge à l'extérieur indien et blanc à l'intérieur.
Les pommes.
Voilà, les pommes. Y a cette idée de progressisme, de traditionalisme. Alors les traditionalistes sont plus repliés sur eux-mêmes, les progressistes vont chercher le monde moderne et essayer de s'y adapter. Et puis, eh ben, c'est compliqué pour les Indiens de se retrouver là-dedans. Donc, on est vraiment dans une période de... démographiquement, ça va mieux, mais on est en train de se restructurer, retrouver notamment les racines de ce peuple-là dans les traditions.
Et oui, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient.
Exactement.
Et pour autant, est-ce qu'il y a un délit de peau rouge, un délit de faciès, par exemple, quand on veut chercher un emploi?
Oui, le racisme, de toute façon, il est endémique aux États-Unis, hein, quelles que soient les minorités, et peut-être encore plus chez les Indiens. C'est-à-dire que c'est paradoxal, l'image de l'Indien, elle fascine à la fois, mais elle est ancrée dans le passé. Donc pour beaucoup d'Américains, les Indiens n'existent plus. D'accord? Ou alors ce sont quelques clochards dans les grandes villes, et du coup, pour trouver un travail, c'est beaucoup plus compliqué.
Il peut y avoir un délit de faciès, une discrimination de ce type-là, vraiment. Hein?
Ouais. Ah oui, vraiment, oui.
Et bien justement, vous disiez que c'était un petit peu... L'image appartenait un peu à l'histoire, l'image même poétique, hein, de l'Indien. C'était à quelle période cette image, on va dire, encensée, poétique? C'est 19e siècle, hein, ces photos qu'on voit quand on situe un western, on est au 19e?
Oui, 19e, début du 20e siècle, on considère, enfin pour les Américains, l'Indien n'existe plus.
D'accord.
Donc les réserves, c'est 1850, on les a parquées. Et après 1950, on les atomise dans les grandes villes, donc ils n'existent plus, ils n'existent que dans l'histoire.
Votre prochain voyage pour aller les rencontrer?
J'espère c'est l'été prochain, donc ça va être très tôt, très vite.
Et peut-être justement, vous nous l'aviez expliqué quand on s'était croisé ici et qu'on avait vraiment pris un bon temps avec vous, lorsque vous allez directement vous au contact de ces tribus ou quand vous le faisiez dans le cadre de vos recherches, vous pouviez passer devant des panneaux qui vous indiquaient ici réserve indienne, c'est à vos risques et périls. Il y a des lois particulières et à un moment donné, vous n'êtes pas forcément toujours protégé. Il faut savoir avancer dans ces endroits.
Oui, c'est compliqué, hein, parce que déjà, aller voir des aînés et leur dire « je viens vous étudier », ils n'aiment pas du tout ça, hein, parce qu'on n'est pas des bêtes de foire. Donc moi, je ne peux pas arriver avec mon statut de chercheur, si vous voulez. Il faut que j'y aille en tant qu'être humain, ce qu'ils apprécient le plus d'ailleurs. Et puis ensuite, ce sont des endroits un peu reculés, dangereux, donc il faut faire attention. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un travail de chercheur en bibliothèque, en fait.
Mais c'est forcément un travail passionnant. Et on l'avait dit, hein, déterrer l'âge du savoir, vous savez vraiment bien le faire. On va déjà devoir se quitter. Cher Fabrice, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et de nous avoir fait vivre ce voyage ethnographique passionnant.
Merci à vous.
Ça a été un plaisir. Merci encore. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
C'est votre jour de science dans l'actu.
Souvenez-vous, Fabrice, il y a un an, juste avant de mourir, l'astrophysicien Stephen Hawking tirait la sonnette d'alarme en affirmant qu'avec le réchauffement climatique, la Terre se transformerait en boule de feu d'ici 2600 et qu'il nous fallait chercher de toute urgence une planète susceptible d'accueillir la vie. Oui, mais alors le problème, c'est où aller dans notre système solaire? Très difficile, hein, vous êtes d'accord avec moi?
On n'a pas vraiment le choix, ou beaucoup, beaucoup trop, je sais pas.
Prenons par exemple Uranus. On serait, si on y allait, asphyxié directement et puis baigné dans une atmosphère à moins 200 degrés Celsius, composée principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Et un petit détail a attiré mon attention récemment, l'atmosphère d'Uranus sent le P, le pourri.
Uranus en un mot, hein.
Tout à fait, j'étais sûre que vous alliez le faire. Alors c'est vrai que c'est rigolo, mais c'est très sérieux parce que, comme le souligne la revue Nature, une étude grâce au télescope de 8 mètres de diamètre qui s'appelle le Gemini North d'Hawaï,
bien.
Ah oui, vous avez vu comme je le dis bien, a trouvé le responsable à cette odeur pestilentielle. Il y a en effet sur cette planète une très grande quantité de sulfure d'hydrogène. Oui Fabrice, c'est le même sulfure d'hydrogène que l'on retrouve dans les boules puantes dont vous avez, m'a-t-on dit, abusé durant votre scolarité.
J'adorais ça.
Ça m'étonne pas. Et bien juste, pour info, en plus de faire sourire, cette découverte a un véritable intérêt scientifique. Je m'explique. Ce sulfure d'hydrogène à l'état gazeux dans l'atmosphère d'Uranus donne des indications sur la manière dont s'est formé notre système solaire. Neptune aurait la même situation gazeuse qu'Uranus, mais Jupiter et Saturne, par exemple, pas du tout. Ce qui pourrait prouver que ces deux planètes se sont formées plus près du Soleil qu'Uranus et Neptune. On sait en effet que nos planètes ont migré au cours de leur formation. Cette découverte sur l'odeur d'Uranus nous permettra peut-être de savoir où elle est née. Comme quoi l'odeur, hein, finalement.
Mène à plein de choses.
Bon. Exactement.
Alors moi, de mon côté, je vais commencer par une question. On le fait souvent. Hein. Vous ne savez pas quelle chronique j'ai fait. Je vais vous demander quel est votre super héros préféré, hormis Serge Jakobowski, évidemment, qui est à la technique.
Fabrice Fenouillère.
Et hormis moi. Donc c'était évidemment...
Le cliché, celui qui vient spontanément, c'est Superman.
Superman. Eh bien, sachez que la science vient dans tous les cas de prouver que Superman, justement, Batman ou Spider-Man, en fait, tous les super-héros, pouvaient aider à se sentir mieux dans leur corps, leurs fans masculins, mal dans leur peau. En effet, il a été démontré que les hommes complexés, ceux qui ne se trouvent pas assez musclés, voire légèrement dépressifs, redoublent de force sur un test de puissance effectué au dynamomètre et ont parallèlement une image bien plus positive d'eux lorsqu'on leur montre tout simplement le visage ou un petit bout de film de leur super-héros préféré. Plus généralement, cette étude confirme qu'il est profitable pour le moral et la confiance en soi d'avoir quelqu'un à idolâtrer, même si cette personne, on le voit dans le cadre de cette étude, n'est pas réelle. Personnage de fiction, par exemple. En s'identifiant à ce que l'on considère comme un modèle, on prend un peu de la personne, de la force, en l'occurrence pour les super-héros, et on se l'attribue. Et comme vous êtes mon héroïne préférée, ça doit forcément expliquer mon petit côté féminin.
Oh, c'est trop beau! Bon, écoutez, on arrête l'émission là.
À tout jamais.
C'est fini. Mais tiens, on va saluer grand chef de la technique, Serge Jakobowski. Grandes oreilles, me précise-t-il.
On n'a pas encore trouvé
grandes oreilles, grandes oreilles. Et puis notre grand Fabrice Fenouillère. Bon, c'était une fois de plus un rendez-vous topissime. On s'est régalé.
On s'est régalé avec ces Indiens d'Amérique.
Et je trouve qu'on va les regarder différemment grâce à, une fois de plus à ce rendez-vous. Et c'est un peu le principe de ce rendez-vous du dimanche. Merci Fabrice.
Merci beaucoup. Et la prochaine fois, on regardera différemment notre cerveau.
Exactement.
Some other guy that you knew before. You do all those guys you know and love you more.